Et voilà l'heure de notre rendez-vous avec Claudine Thio, comédienne, mais qui est aussi bénévole à l'association Lire et Faire Lire, la fédération. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Bienvenue pour ce retour dans nos locaux. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait plus vu.
Oui.
Alors, Lire et Faire Lire, c'est une aventure où vous êtes bénévole depuis longtemps ?
Depuis bien longtemps maintenant. Je pense que j'ai commencé, c'est au début du 21e siècle. Je crois que ça doit dater de 2004. Je l'articule à la fin du festival de théâtre de rue qu'on avait organisé, qui s'appelait Déambule. Vers la fin, quelqu'un m'a contacté de l'UDAF, puisque Lire et Faire Lire dépend de l'UDAF, pour me demander si j'avais envie de lire en crèche. En crèche, moi.
Alors, ça surprend quand on est comédienne.
Ça surprend beaucoup. Alors, ce qui m'a facilité les choses, c'est qu'à l'époque, j'avais deux petites filles qui avaient l'âge de la crèche, à peu près, quoi, genre 2-3 ans. Et j'ai accepté. Et je me suis régalée pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai découvert la littérature enfantine, qui est magnifique. Et puis, au bout de quelques années, je me suis un petit peu ennuyée, parce que je suis quand même très littéraire. Et donc, je me suis dit, peut-être que j'ai envie de communiquer des textes un petit peu plus élaborés à des enfants. Donc, j'ai contacté le collège Gassendi et j'ai proposé d'abord des rencontres autour de la lecture entre midi et deux. La formule était la suivante, je venais tous les 15 jours entre midi et deux sur inscription et ça se passait au centre de documentation, au CDI.
Donc pour des enfants de...
Donc c'était les sixièmes, là.
Sixièmes.
J'avais proposé sixièmes. On a lu beaucoup de choses, surtout des contes. J'ai beaucoup travaillé autour du loup. J'adore les histoires de loups, les enfants encore plus. Et puis, au bout de quelques années, je l'ai fait ça pendant 3 ans, et je ne sais pour quelle raison, ça s'est un petit peu délité, cette organisation-là. Il n'y avait plus beaucoup d'inscrits. Et dans le même temps, un professeur de français de SECPA, c'est-à-dire, j'oublie toujours un peu la signification du sigle, enfin ce sont en tout cas des classes d'adaptation pour des enfants, des adolescents en très grande difficulté scolaire. Et donc ça va de la 6e à la 3e, c'est au collège Gassendi. Et donc un professeur de SECPA avait dit à la directrice du CDI qu'elle cherchait une lectrice ou un lecteur. Alors je me suis proposée, voilà. Et c'est le début d'une grande aventure avec un professeur qui fait surtout le français, mais d'autres matières aussi, parce que l'organisation des professeurs de SECPA, c'est que ce sont en fait des instituteurs qui sont polyvalents au niveau des matières. Mais moi, j'interviens donc avec cette personne qui s'appelle Madame Brun, en classe de français, voilà. Ça, c'est l'historique.
Alors, l'historique. Donc, maintenant, ça fait quelques années aussi que vous faites de la lecture pour des plus grands.
Voilà.
Vous avez abandonné complètement le public de la crèche ?
Complètement. Voilà. Pendant quelques temps, j'avais continué avec le réseau d'assistantes maternelles. Où là, c'était assez intéressant parce qu'on faisait... c'était les nourrices... Enfin, on dit assistantes maternelles maintenant, avec les bébés. Et donc, ça donnait aussi une formation un peu aux nourrices par rapport aux livres et tout ça. Voilà, c'était pas mal. Et puis, j'ai passé le relais pour ça aussi. Donc, c'est une autre personne qui l'a fait.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, peut-être, en faisant la lecture déjà pour les enfants de la crèche ? Est-ce que vous avez ressenti qu'ils étaient attentifs ? Ou comment on arrive à embarquer, puisqu'ils sont tout petits.
Alors moi, j'ai jamais voulu le faire avec les bébés. J'ai jamais voulu le faire avec les tout petits. Il y a tout un mouvement qui défend l'idée que pratiquement dès la maternité, on peut lire des livres aux enfants. Moi, je pense que c'est surtout la voix à ce moment-là. C'est mon point de vue personnel. Hein. Il y a vraiment des avis différents. Je pense que c'est surtout la voix qui compte. On peut chanter, raconter une histoire, mais le livre lui-même, de mes observations personnelles, je trouve que les enfants commencent à comprendre que le livre est un objet très spécifique à partir de, je vais dire, un petit peu plus d'un an, 14-15 mois. C'est mon avis, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, mais moi je l'ai constaté comme ça, avec mes propres petits-enfants et avec donc l'expérience de la crèche. Donc je faisais, à la crèche de Digne, la crèche municipale, il y avait 3 niveaux d'âge. Donc je faisais avec les moyens et les plus grands. J'ai commencé avec les plus grands, c'est-à-dire c'est quand même que les 2 ans, hein, ceux qui sont entre 2 et 3 ans, c'est déjà tout petit. Après j'avais accepté de faire aussi, fait de faire des interventions de lecture sur les 1 an, 2 ans, mais je suis pas descendue, voulez pas. Et par contre, avec les 2-3 ans, je me suis vraiment mais régalée, quoi. Alors je les emmenais, on faisait toute une petite mise en scène, je les emmenais dans un petit espace. Des fois, c'était une pièce spéciale. On faisait tout doucement parce qu'on traversait plus ou moins la pièce où d'autres faisaient encore la sieste. Et puis, on se mettait bien, bien cocooning, là, voilà, 4 ou 5 à la fois, hein, pas plus, voilà. Et c'était une très belle expérience. Après, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, je suis passée vraiment à l'adolescence directe. Presque dirais-je. J'avais quelques interventions en école primaire, mais qui ne m'ont pas forcément convenu. C'était compliqué au niveau des horaires, tout ça, voilà. Et donc.
Alors après, donc votre expérience donc au collège, c'était évidemment tous les volontaires qui.
Alors au début, donc pendant 3 ans, j'ai fait donc ce que je vous expliquais là dans le cadre du CDI. Sur inscription volontaire et à chaque fois, ils n'avaient pas besoin de s'inscrire pour l'année, par exemple, voilà. Moi, j'avais fait le choix de venir tous les 15 jours parce que j'ai un mode de vie personnel qui fait que je ne veux pas m'engager sur un rythme hebdomadaire. Alors ça aussi, ça conditionne des choses parce qu'à un moment, donc, cette intervention au CDI, on m'avait demandé de l'inscrire dans des activités facultatives, justement, qui ont lieu entre midi et 2, mais qui sont par trimestre et toutes les semaines. Et donc ça, j'ai pas voulu, en fait. Ça s'est un peu passé comme ça. Et dans le même temps, j'ai eu l'occasion donc d'intervenir en SECPA. Et là, ça m'a bien intéressée, vraiment.
Alors, voilà. Pourquoi le public SECPA était intéressant pour vous ?
Je suis psychologue de formation, donc voilà, c'est ma petite corde sensible. D'accord. Professionnelle qui fait que voilà, ça m'intéressait bien par rapport à des expériences avec des adolescents en difficulté que j'avais dans ma carrière professionnelle. Ça, c'est le premier point. Et puis, je me suis très bien entendue tout de suite avec la professeure de SECPA. J'avais une autre difficulté, moi, c'est que les groupes d'enfants ou d'adolescents, j'ai pas envie de faire de la discipline. Mmh. Et donc, très vite, c'est un peu compliqué. Et donc, ce professeur-là, à qui je rends hommage, elle est extrêmement cadrante. Et avec des adolescents en difficulté, c'est extrêmement important. Donc, je ne m'occupe pas du côté régulation du groupe et discipline. Et ça, ça m'a beaucoup soulagée. Donc, je suis que dans le plaisir de partager avec eux des textes qu'on articule avec le programme de français. J'ai beaucoup travaillé, surtout avec les quatrièmes, donc avec des 13-14 ans. Au programme, ils ont très souvent comme thème l'amour, la résistance. Voilà, c'est les deux principaux que j'ai pu rencontrer dans les thèmes. Et donc, du coup, je cherche. À la médiathèque, ils me connaissent comme le loup blanc. Là, je leur dis, voilà, je cherche des trucs. Je suis aidée par les bibliothécaires. Et puis, je cherche aussi par lire et faire lire. Il y a aussi, on peut avoir des rencontres ou des documentations par Internet ou quoi qui me permettent aussi de trouver des choses. La grosse difficulté avec ces adolescents, c'est que leur niveau scolaire n'est pas en écho avec leur âge et leur maturité, et éventuellement une maturité d'un autre ordre, social, sexuel, etc. Voilà. Donc c'est pas très très facile, il faut pas les prendre pour des bébés, donc je peux pas prendre des albums un peu enfantins, voilà, donc c'est un peu un challenge par rapport à ça, mais ça se passe quoi. Voilà.
Donc ça vous demande quand même pas mal de travail, de préparation, de disponibilité, même si vous allez qu'une fois tous les 15 jours.
Alors là je fais plus une fois tous les 15 jours, je fais des sessions, donc je fais en général 3-4 semaines de suite sur chaque trimestre. Et on aboutit à quelque chose de magnifique en plus, puisque au bout de 2-3 ans de cette expérience, je me suis dit, lire et faire lire, c'est quand même avoir le plaisir de la lecture soi-même aussi. Mm-hmm. Et donc avec mon expérience de théâtreuse aussi, j'ai mis sur pied des lectures à voix haute avec eux. Donc à part cette année, dans le contexte de la pandémie, c'est devenu très compliqué depuis 2 ans. Mais sur vraiment plusieurs années de suite, on a abouti au dernier trimestre avec ces élèves-là, de 4e et de 6e, ou de 5e, parce que souvent j'ai 2 classes. J'ai toujours les 4e, puis des fois j'ai aussi les 5e ou les 6e. On aboutit à une lecture publique, c'est-à-dire devant d'autres classes, des professeurs, éventuellement les familles, ou les éducateurs. Donc ils se montent sur scène, dans la salle de spectacle du collège, et ils font cette lecture qui est théâtralisée, donc du coup, voilà, un truc vraiment, une belle, belle expérience pour eux, quoi, qui est magnifique. Ils sont tous hyper contents d'avoir réussi à ça, à dire à voix haute devant les autres, particulièrement pour ces enfants-là, pour ces ados-là, c'est une très très grande victoire. Alors, par rapport, on peut articuler à ce, qu'est-ce que je trouve comme satisfaction dans ces interventions-là, ben c'est ça quoi. Mm-hmm. Voilà.
Et d'autant plus que, enfin moi, en ayant accueilli des stagiaires à la radio, des stagiaires donc de troisième, la difficulté qu'ils ont de lire,
c'est
terrible, comme ils butent sur chaque mot pratiquement, enfin pour certains, pas pour tous heureusement, mais c'est quand même une difficulté actuellement.
Alors il y a beaucoup d'expériences qui sont faites avec les enfants et les jeunes ados actuellement, quoi. Ça court beaucoup, de la lecture à voix haute, c'est vraiment quelque chose qui commence de nouveau à être travaillé. La lecture et l'élocution, je ne sais pas si vous connaissez ce film magnifique dont je suis en train d'oublier le nom, ça s'appelle « À voix haute ». Qui raconte l'expérience de très jeunes étudiants, donc des bacheliers pratiquement tous issus de quartiers défavorisés en plus, donc des gens intellectuellement brillants, mais qui n'ont pas la culture de l'expression orale. Mmh. Et il y a donc, c'est un reportage sur leur expérience de concours d'expression orale. Mais ça s'appelle À voix haute, c'est magnifique, je vous le recommande.
Oui, oui. Enfin, ça rejoint un peu les nouveaux concours d'éloquence.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Qui remportent un vif succès.
Oui, oui, c'est ça.
Qui sont importants.
Oui. C'est ça. Ben, je vais vous lire un truc, parce que la professeure, donc Madame Brun, ce qu'elle fait souvent, elle demande aux élèves, à la fin de l'année, de me faire un petit texte pour me dire quelque chose. Voilà. Mmh. Alors voilà. Bonjour Madame Thieu, je vous remercie pour le texte de La fille des batailles. On avait travaillé un texte vraiment difficile cette année-là, La fille des batailles. J'avais oublié de beaucoup traduire et de beaucoup résumer, mais c'était magnifique. C'est une histoire qui mélange à la fois l'esclavage, la Révolution française, enfin plein de choses comme ça. C'est gentil de votre part, j'ai appris à lire mieux avec vous et c'est grâce à vous qu'on a réussi à lire devant tout le monde. J'ai réussi à vaincre ma peur et j'ai plus confiance aujourd'hui qu'avant. Je voulais vous dire que c'est sympa de votre part que vous veniez gratuitement, parce que j'en suis toujours beaucoup. S'il commence un peu à être compliqué, j'en dis, écoutez-moi, je viens gratuitement. C'est pour mon plaisir, qu'on se fasse plaisir tous ensemble. Si je ne veux pas faire la discipline, alors bon, ça va. Hein, voilà. Bon, venez gratuitement. Que vous veniez gratuitement pour nous lire des histoires drôles. Alors, il a retenu que c'est des histoires drôles. Il n'y a pas que des histoires drôles, hein, mais voilà. C'est très, très gentil de venir pour nous. Madame Thieu, je vous remercie avec des gros bisous. Voilà. Voilà un exemple de texte très touchant que je reçois chaque année. Voilà.
Eh oui, eh oui.
Alors en plus, je suis une vieille dame, et donc il y a ça aussi, quoi. Parce que c'est aussi l'esprit de lire et faire lire. Il faut dire que dans lire et faire lire, l'esprit c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment des papy-mamies qui lisent aux enfants. Et donc du coup, comme je suis vraiment une mamie avec les cheveux blancs et tout, si vous me voyez, je suis pas très vieille, mais je suis quand même bien vieille.
Oui, vous approchez des 80 ans, c'est ça.
C'est ça.
Et c'est vrai que ça se voit pas du tout.
Et donc il y a ce témoignage là aussi de quelqu'un, voilà, qui a envie de partager avec des jeunes des choses importantes, parce qu'évidemment on échange sur les idées après. Ça devient très politique au sens très très large du terme. Voilà. Ouais, donc.
Oui, le débat autour de lecture peut permettre de la réflexion sur plein de sujets.
Voilà, complètement. Oui. Surtout des sujets aussi importants que ça. L'amour, c'est énorme pour eux, quoi. La résistance aussi, j'avais trouvé des choses intéressantes sur la... Ben, d'ailleurs, la fille des batailles... Alors, comme je suis une vieille dame qui perd la mémoire des noms, je suis en train d'oublier. On me souffle à côté, mais voilà, c'est ça, on m'a soufflé. J'ai vraiment honte parce que c'est François Place et c'est un auteur que j'adore, mais voilà, le nom m'échappait tout à coup. Dans La fille des batailles, c'est une histoire aussi de résistance, puisque là, en fait, l'histoire, c'est un naufrage, un bateau fait naufrage, quelque part en Bretagne ou en Vendée. Il y a une seule survivante et c'est une jeune esclave noire. Donc il y a toute cette question-là, comment elle est recueillie, qui s'oppose à ce qu'elle soit recueillie, qui ne la méprise pas, qui la traite comme esclave, etc. Puis il y a une belle histoire d'amour après, quand elle grandit avec un jeune homme qui est obligé de partir à la guerre parce que c'est là, il y a la Révolution française qui va combattre les autres États d'Europe. Donc il y a vraiment toute cette dimension-là qu'on a beaucoup donc travaillé. J'avais trouvé aussi, par exemple, un très bel album sur Mohamed Ali, le boxeur. Voilà, des choses comme ça. Alors la satisfaction que j'ai aussi personnelle, c'est que du coup, ça me fait fouiller des tas de choses et découvrir des tas de choses. Voilà.
Et vous allez continuer encore un moment? Est-ce que la motivation est toujours là?
Alors, j'avais dit à Sandrine Berger, qui est là à côté de moi, que je mettais la barre à 80. Donc, normalement, j'ai plus que cette année. On verra. On verra.
Vous avez préparé quelques lectures, peut-être
J'ai préparé. En fait, je me suis rendu compte ce matin que peut-être ce serait intéressant de donner un exemple.
Voilà.
Donc, j'ai vite pris une pochette de ces témoignages d'adolescents, là. Dans l'éventail des lectures, ce que je peux dire aussi, c'est que je n'ai pas recours aux auteurs adultes, en fait. À mon grand désespoir, mais je trouve que c'est vraiment difficile. Je crois qu'une fois, je me suis lancée à lire un petit peu l'Odyssée. Mais globalement, j'essaie d'aller plutôt vers la littérature jeunesse, voilà, quand même, parce que je trouve que c'est... Bon, pour eux, c'est, la littérature adulte, elle est vraiment compliquée, même si je la défends beaucoup par ailleurs, mais voilà. Alors là, c'est un petit extrait d'un auteur qui est auteur à la fois jeunesse et adulte, qui s'appelle Arnaud Catherine, à ne pas confondre avec Philippe Catherine.
Oui.
Et qui s'appelle « Je suis la honte de la famille ». C'est à l'École des loisirs, qui est quand même une maison d'édition de référence. Ce que je pourrais dire aussi, entre parenthèses, c'est que la manière dont je travaille, où je prends des extraits de tout petits romans ou des nouvelles, parce que c'est pareil au niveau de l'attention.
Il ne faut pas que ce soit trop long.
Il ne faut pas que ce soit trop long, voilà. Mais ça m'est arrivé aussi de lire en feuilleton, entre guillemets, un petit roman comme ça qui s'étale sur plusieurs séances. Mais il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. Mmh. En fait, je ne l'ai plus fait depuis que j'organise ces lectures à voix haute, parce que ça nous prend beaucoup de temps quand même. C'est assez compliqué. Voilà. Il n'y a qu'une façon de tomber amoureux, il faut le vouloir. Quand je suis arrivée à l'école, ce jour-là, je le voulais. J'ai filé droit vers Aurélien et Louise, ce sont ses copains, et je me suis demandé comment j'allais leur expliquer tout ça. Il faut dire que l'amour et le mariage ne les passionnent pas. Aurélien a décidé qu'aucune fille ne s'intéresserait jamais à lui, et je ne sais pas pourquoi. Il se trouve moche, peut-être, et je n'ai jamais pensé à lui dire que non, il n'est pas moche du tout. Au contraire, il a des yeux bleus magnifiques. Il serait temps qu'ils s'aperçoivent de leur pouvoir. Quant à Louise, elle prétend qu'on ne peut pas être amoureux à 10 ans. Alors des fois, je change un peu l'âge, parce que 10 ans, ça fait un peu bébé. Donc je dis 12, 13 ans, parce que c'est la même problématique. Hein. Ils sont nombreux à avoir tenté de lui faire une déclaration. Louise répond chaque fois d'un même rire méprisant et sans équivoque. Alors je vous passe un peu les détails. J'ai essayé de me concentrer sur la leçon d'anglais sans trop chercher à savoir comment j'allais réussir à tomber amoureux avant la fin de la journée. Je pense que les idées de génie nous tombent dessus au moment où on ne s'y attend pas. Ça n'a pas vraiment marché. Il faut dire que Madame Almodovar ne m'a pas aidée. Elle a pour instruction de nous faire une initiation à la langue anglaise. Sauf qu'elle est d'origine espagnole. Alors forcément, elle parle anglais comme une vache russe. Et plus j'essayais de me concentrer, plus j'avais l'impression d'être une petite souris qui voit tout en très gros, qui entend tout très fort, bref, qui n'est pas du tout à sa place dans la vie. Alors, là, c'est un petit dialogue que je vous lis quand même. « Sawa, repeat after me, the cat is brown. »« The cat is brown. »« Aurélien, repeat after me, the brown cat is in the kitchen. »« The brown cat. » The brown cat, Aurélien. The brown cat, je sais plus, madame. Martin, aide ton camarade. Where is the brown cat, Martin? Silence. Tout le monde me regardait. Apparemment, la mère Almodovar m'avait demandé quelque chose. J'ai dit ce qui me passait par la tête. J'ai dit, I love you. Elle a fait des grands yeux terrifiés. Aurélien et Louise ont gloussé. La sonnerie a retenti. C'était la récré. Voilà.
C'est voilà très sympa, ouais.
Voilà. Voilà le genre de choses qui marchent bien, voilà, avec... Alors après, il y a des choses plus graves, mais... Alors, très important qu'il y ait de l'humour aussi, mais moi, je suis beaucoup aussi dans les choses un peu poétiques, sentimentales, tout ça, donc, ben voilà, je fais mon petit mix.
On rappelle le titre de ce livre ?
Alors, ce livre-là, c'est « Je suis la honte de la famille », parce qu'en fait, il n'arrive pas à être amoureux, et il se sent complètement honteux parce qu'il n'a pas de petite copine, voilà, donc il est honte de ça. Et c'est donc Arnaud Catherine qui a écrit d'autres textes sur, voilà, sur l'amour adolescent, sur l'homosexualité aussi. Voilà, là, je viens de lire un livre de lui qui raconte ça, qui raconte l'histoire d'un adolescent qui est amoureux et qui se dépatouille avec ça, amoureux d'un garçon.
Est-ce que par l'UDAF, vous avez été formée en plus votre métier de psychologue et de comédienne ?
Oui, très bonne question. Alors, bien sûr, j'ai appris des choses. Au début, je suivais beaucoup les formations. Alors d'abord, j'ai appris une technique de lecture à voix haute qui me sert encore maintenant, à voix haute avec des enfants, avec des albums illustrés. parce que c'est, voilà, on sert beaucoup d'albums illustrés, même avec les ados. Hein. Et donc, il y a une technique qui consiste à tenir le livre à côté de son visage, ouvert à côté de son visage, et on essaie de lire quand même un peu comme ça, le regard de travers. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai un peu traduit ça autrement. C'est-à-dire que très souvent, ce que je fais, c'est que je lis avant de montrer l'image. Parce qu'en plus, je pense que c'est intéressant que...
Qu'ils puissent imaginer.
Surtout ces ados-là, quand je j'utilise des textes illustrés, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, ce que je viens de vous lire, ce n'est pas du tout illustré. Mais je tiens à ce qu'ils essaient quand même de commencer à imaginer avant d'avoir le support de l'image qui va forcément les mettre dans une image qui n'est pas la leur, quoi, voilà. Mmh. Et donc, du coup, ça m'intéresse de jouer un petit peu avec les deux. Mais avec les petits, je faisais beaucoup ça. Quand j'étais à la crèche, j'ouvrais le livre comme ça, un peu de pied, voilà, et les enfants regardaient en même temps que je lisais. C'est un petit peu un exercice acrobatique, mais enfin, ça se fait, quoi. Donc, j'ai appris ça. J'ai beaucoup découvert, j'ai beaucoup d'informations sur la littérature jeunesse. Je m'étais même offert le luxe d'aller une fois au salon de Montreuil à Paris, au début où je faisais ce travail. Je suis allée aussi avec une année, il y a des rencontres nationales de temps en temps de l'IREFERLI, et il y a une année où j'ai participé à ces rencontres-là. Ça a été une très très belle expérience aussi. C'était à Épinal en plus, donc on était très en lien avec ce qui se passe à Épinal par rapport à la lecture, à l'illustration, une bibliothèque absolument incroyable, complètement historique. Et il y avait une masterclass avec Daniel Mesguich et j'ai eu la chance d'arriver, parce qu'on était une dizaine d'inscrits, c'était donc une masterclass et publique, on était une dizaine d'inscrits, on est passé trois. Et donc quand on a vu, j'étais avec donc les collègues de Digne, on était montés à quatre. Quand on a vu que ça commençait à... Le temps s'étirait. Daniel Mesguich prenait énormément de temps avec chaque personne. Mmh. Et donc, ce n'était pas les 10 qui allaient passer, c'était 3. Il y en avait déjà 2 de passés. Je me suis précipitée. Et j'ai eu la chance d'avoir donc bénéficié d'une masterclass avec Daniel Mesguich. Voilà. Ah. Ça, c'est les aventures l'IREFERLIR. Donc, c'est important. Alors maintenant, je ne vais pas du tout aux formations. Parce que... Alors, il y a aussi des formations sur le compte... Mais moi, j'aime tellement le support du livre que je n'arrive pas à m'en détacher, quoi. Mmh. Donc, je n'ai pas essayé de travailler ça, ni en théâtre, d'ailleurs, ni comme ça. Voilà, je garde le support du livre. Ou alors j'ai un texte en tête, mais c'est le texte que je joue, quoi. C'est pas... Conteur, ça m'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on va dire que ce n'est pas mon registre. Donc les réunions auxquelles je vais maintenant, et j'y tiens beaucoup, c'est les réunions d'échange d'expérience et d'échange sur les bouquins qu'on a pu découvrir. Alors je suis un petit peu orpheline au niveau des livres, moi, que je peux découvrir, parce que malheureusement, dans le département, il n'y a pas d'autres expériences par rapport à ces interventions en classe de SECPA, mais c'est toujours intéressant quand même, parce que voilà, des livres pour plus jeunes, quand des lecteurs, lectrices interviennent en cours moyen et que moi j'ai affaire à des sixièmes, des fois c'est même trop compliqué, le livre qu'ont expérimenté les lectrices en cours moyen et moi ce que je vais faire avec des sixièmes ou des cinquièmes, voire même des quatrièmes en SECPA.
Ce qu'on peut revenir, donc vous, ça vous a apporté énormément, vous avez eu des bons retours, vous retrouvez des anciens, élèves qui ont évolué.
Alors, je n'ai pas trop d'informations. Ce qui m'arrive, c'est de les rencontrer comme ça, dans la rue.
Oui. Ou de constater bonjour. Leur épanouissement.
Je n'ai pas de recul. Non. Je ne peux pas le dire comme ça, parce que d'abord, en troisième, je ne suis jamais intervenue en troisième. Pour des raisons techniques, ils ont beaucoup de stages, ils ont le brevet, ils ont des trucs, c'est compliqué leur programme, quoi. Donc on est, voilà. Et après pour les autres, non, je peux pas dire que j'ai des retours. Mon inquiétude, c'était de les retrouver au tribunal, parce que je suis assesseur au tribunal pour enfants, et je me disais, oula, si je revois l'un ou l'autre qui a fait des grosses bêtises et qui se retrouve au tribunal, ça me ferait triste, quoi. Ça m'est pas encore arrivé.
D'accord. Bon.
Après, je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein.
Ouais.
Mais il y a une belle équipe quand même au Collège Gassendi. Il y a vraiment une belle équipe de professeurs et je pense qu'ils travaillent bien, quoi, pour ces ados-là, dont beaucoup sont en foyer aussi.
Mm-hmm. Voilà. Et j'ai envie de rajouter, je ne sais pas si ça fait partie des projets de l'UDAF, mais lire, faire lire et écrire, pourquoi pas?
Alors oui, c'est une grande question. Enfin, j'ai écrit plus jeune, j'ai été poète, j'avais un peu commencé ça. Et puis, j'arrive pas à m'y mettre. Et après, écrire pour les enfants. Alors, si je vais vous quand même faire une précision par rapport au travail que je fais, notamment avec Madame Brun, c'est qu'elle leur demande de se servir de tout ce que je peux lire pour alimenter leur imaginaire et écrire eux-mêmes des très très courtes nouvelles, des petits textes qui racontent une histoire. Elle, elle leur fait faire ce travail-là. Et ça nous est arrivé, du coup, de se resservir de ces textes des élèves pour les lire à voix haute, éventuellement aux autres. Bon, c'est souvent un peu limité, comme il faut le reconnaître. Mais ça les oblige. Et ils se servent bien, effectivement, des lectures que j'ai pu faire pour alimenter leur imaginaire et écrire un petit peu. Essayer, oser eux, d'écrire quelque chose et lire à voix haute, oser lire à voix haute ce qu'eux-mêmes ont écrit. Ça, c'est très, très important. C'est le début de l'expression orale, en fait. On a commencé, on a écrit, ça aide un peu, c'est un support, et puis après, c'est devant les autres, et voilà. Donc, mais c'est, il y a un travail énorme, quoi. Là, mon expérience de comédienne me sert beaucoup, parce qu'il y a travailler la présence, la voix, le regard, enfin, tout ça, quoi. Après, voilà, c'est ce que je peux vous dire, moi, par rapport à mon expérience sur l'écriture. Je crois qu'il y a d'autres lectrices qui utilisent beaucoup plus ça. C'est vraiment, comme on est très libre à interlire et faire lire, chacun a son expérience personnelle de ce qu'elle fait. Je dis elle, parce qu'il n'y a pas d'hommes en ce moment, il n'y a même plus du tout. Il y en a eu quelques-uns à certaines périodes. Hein. Actuellement, il n'y en a pas un seul. Hein. Ah si, il y en a un. Après, c'était pandémie. Donc depuis 2 ans, c'est plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, donc sur l'année scolaire 2020-2021, je vais vous en parler, mais avant, on avait déjà la pandémie, c'est ça, 2019-2020.
Il n'y a pas eu de travail en visio, comme ça s'est fait les cours en visio.
Non, moi je ne peux pas.
Ça n'a pas...
Alors là, ça c'est mon âge.
Pas de rapport,
oui. Ah là là, j'arrive pas. Alors je sais qu'il y a des vieilles dames ou des vieux messieurs qui arrivent à être à l'aise. Mais moi, je ne peux pas, quoi. C'est vraiment un truc. Alors, donc, sur 2019, j'avais commencé à travailler avant le confinement. Donc, j'avais commencé à faire des lectures fin 2019 et puis tout début 2020. Et puis, ça s'est carrément interrompu. Je n'ai pas continué du tout. Il y a eu... De toute façon, les enfants travaillaient à distance. Enfin, c'était très, très compliqué. Et puis, l'année dernière, donc sur 2020-2021, et là, j'ai repris... Et je ne me rappelle pas si j'ai repris au premier trimestre ou seulement au deuxième trimestre. Peut-être j'ai repris que début 2021. Derrière le masque, les élèves masqués, vous imaginez. Alors les professeurs ont cette expérience-là tous les jours, mais pour moi c'était absolument nouveau et je ne voulais pas lire à voix haute derrière le masque. D'ailleurs j'avais des lectures, ça c'est dans un autre contexte, mais c'est dans le contexte de Plumentiel, mais j'avais des lectures à voix haute musicales qui étaient prévues à la médiathèque de Digne, j'en avais deux en 2020, je me perds un peu dans les années là, que j'ai annulées parce que la directrice de la bibliothèque acceptait que je les fasse, mais il fallait que moi-même je sois masquée, j'ai dit non. Bon, alors lecture au collège... Ça me manquait quand même, parce que j'aime bien faire ça. Et donc, j'ai dit, bon, allez, j'essaye. Mais c'est terrible.
D'abord, ça change, évidemment, au niveau de vos expressions.
Alors, on ne voit pas l'expression, on ne voit pas la bouche. Le son est quand même un peu feutré derrière le masque. C'est très fatigant au niveau de la respiration. Je me suis rendu compte de ça. Alors, les plus jeunes s'en rendent un peu moins compte, mais moi, vieille dame, là, je sens mon âge, quoi. Et les élèves. Donc, ceux que je connaissais déjà, ça allait. Donc, parce que j'ai fait des interventions l'an dernier, 5e, 4e. Et comme j'avais eu les 6e avant, en fait, il y avait aussi bien en 5e qu'en 4e, il y avait des élèves que je connaissais. Mais pas tous. Parce que c'est une population un peu fluctuante. Il y en a qui s'en vont, qui vont faire autre chose ailleurs. Enfin, bref. Ceux que je connaissais, ça allait encore. Ceux que je ne connaissais pas, je ne connais pas leur visage, vous imaginez. Donc, voilà. Enfin, je l'ai fait. On n'a pas été jusqu'à la lecture à voix haute devant les autres. Parce que ça me paraissait vraiment pas possible. On en a discuté avec le professeur. On a dit non. Et cette année, je sais pas, je vais reprendre quelque chose. Et puis, on va voir comment ça évolue aussi par rapport aux règles sanitaires, quoi. Mais je vais au moins reprendre sur la lecture. Mais ça me manque beaucoup de les mener, ce que je faisais depuis vraiment plusieurs années, de les mener jusqu'à cette expérience de la lecture à voix haute.
Est-ce que vous-même, Claudine Thiot, vous êtes en relation avec d'autres lecteurs bénévoles ?
Eh bien oui, forcément, puisqu'on a des réunions. Par lire et faire lire, on a au minimum 2-3 réunions par an. Voilà.
Voilà. Et chacun peut échanger s'il rencontre des difficultés ou...
Bien sûr, oui, oui. Il y a un concours de poésie qui est organisé. Il y a un appel de l'association à des auteurs. Non, c'est en liaison avec le Printemps des Poètes, voilà. En tout cas, nous, on reçoit des livres de poésie. Il y en a en général 4-5. Hein. Et on les présente aux enfants. La consigne, c'est de les présenter aux enfants, de faire voter les enfants ou les ados. Et donc, un de ces livres va être élu. Et donc, c'est un prix de poésie de lire et faire lire. Et ça, j'ai joué le jeu vraiment très souvent par rapport aux élèves de SECPA. Alors, des fois, c'est un petit peu décalé parce que ça peut être un peu bébé, puisque quand même, lire et faire lire s'adresse principalement aux maternelles et aux primaires. Mais ça, voilà, la plupart du temps, ça a bien marché quand même. Il y a d'ailleurs un des livres de Bernard Friot. C'est un abécédaire qui avait, auprès des élèves auxquels j'avais affaire, qui avait remporté le prix, qui a remporté le prix national, d'ailleurs, je crois, hein, après. Et je me suis servi de cet abécédaire-là comme lecture publique, enfin publique entre guillemets, devant les autres classes, à voix haute, voilà, faite par les élèves. Je me demande même si ce n'est pas la première expérience que j'ai faite de lecture à voix haute, peut-être. Ben après, si je vous parle des livres qu'on a montés en presque spectacle, quoi, en lecture publique, oui, il y a un livre magnifique qui s'appelle « La Louve » de Clémentine Beauvais. Enfin, je me rappelle La fille des batailles, l'alphabet, l'abécédaire, et puis la... Ah oui, si, j'ai monté aussi Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat. Alors pareil, en adaptant beaucoup, en faisant... Et là, c'était très théâtralisé, parce qu'ils avaient des rôles, du coup, Lou, la grand-mère, la petite fille, tout ça. Après, les autres, j'ai un peu oublié, ça fait 4, mais j'en ai fait beaucoup plus que ça.
Ce livre que vous avez couché sur la table là, est-ce qu'il y a un texte...
Alors, il est un peu compliqué, parce que c'est... Ça s'appelle « Mixité ». En fait, c'est un ensemble de nouvelles qui est préfacé par Fadela Amara. Fadela Amara, c'est cette militante féministe arabe, musulmane. Voilà, c'est ni pute ni soumise, son association. Voilà. Donc c'est un peu provoque. Ça m'est arrivé d'en lire quelques-uns, mais je ne vais pas retrouver là. Par contre, sur Petit Chaperon Rouge.
Oui, allez.
Alors, ce que j'aime beaucoup lire, alors, il a un style très spécial, enfin spécial et que j'adore, hein, Joël Pommerat. Ce que j'aimais beaucoup leur lire à la fin, quand j'avais fini la lecture, donc à la fin du livre, il fait une postface, Pommerat, et il dit ceci. Lorsque ma petite fille Agathe a eu 7 ans, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à l'intéresser à mon travail. Je l'avoue, j'étais un peu vexée. Lorsque je lui demandais si elle voulait venir avec moi assister aux répétitions des pièces que je mettais en scène, elle me disait « Oh, non, je n'ai pas envie ». Pour aggraver encore un peu les choses, il m'arrivait souvent de lui dire de ne pas faire trop de bruit pour me laisser travailler. Pendant ce temps, elle s'ennuyait et me le faisait savoir. Un jour donc, j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Comment faire pour l'intéresser un peu à ce que je faisais? L'idée de réécrire l'histoire du petit chaperon rouge s'est tout de suite imposée. Tout d'abord parce que j'ai toujours été fascinée par ce conte et puis surtout parce qu'il parle d'une petite fille dans laquelle j'étais certain qu'Agathe allait se retrouver. Je me suis également souvenue, et ça c'est, j'adore la suite, du récit que ma mère me faisait. Quand j'étais enfant, du long trajet qu'elle devait parcourir pour aller à l'école. Elle marchait chaque jour à peu près 9 kilomètres dans la campagne déserte. Enfant, cette histoire m'impressionnait déjà. Elle m'impressionne encore plus aujourd'hui. J'imagine une petite fille avec son cartable sous la pluie ou dans la neige qui marche sur les chemins, traverse un bois de sapin, affronte les chiens errants. Avec ce texte, j'ai eu envie de retrouver les émotions de cette petite fille-là. Je sais que cette histoire est aussi une partie de mon histoire. Je sais que ce long chemin qu'a emprunté ma mère, presque chaque jour de son enfance, a marqué sa vie, imprégné son caractère, influencé beaucoup des choix de son existence. Et je sais que cette histoire a contribué à définir aujourd'hui ce que je suis. Voilà.
Un autre extrait ?
Alors, entre parenthèses, comme je lis souvent des histoires, oui, on parle donc avec les ados de maintenant, je tiens beaucoup, beaucoup à leur à mettre en évidence, le téléphone portable, vous savez, c'est très, très récent. Hein. Même le lave-vaisselle, c'est pas si vieux que ça. Mais le téléphone portable, Internet, imaginez, autrefois, on n'avait pas tout ça. Alors, je suis très insistante là-dessus. Le début du Petit Chaperon Rouge. Donc, il y a un conteur dans Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très très rares occasions. Donc, elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère ni sœur, seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Alors elle jouait, seule, toute seule. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa mère, mais le temps manquait à sa mère pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours « Le temps me manque, il me manque du temps, j'ai pas le temps de jouer avec toi ». La petite fille, un jour, avait voulu faire un cadeau utile à sa maman, lui offrir du temps. Elle lui avait dit « Tiens, je te donne du temps, maman ». Mais sa mère ne s'était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa petite fille et tout était resté comme avant. Voilà comment ça commence.
C'est magnifique, cet extrait. Ouais. Claudine Thio, on va devoir se quitter. Donc, merci pour cette intervention sur votre travail de bénévole à lire et faire lire. On rappelle que l'association recherche toujours des bénévoles et que pour ça, il faut contacter donc Sandrine Berger, qui est chargée de mission à l'UDAF 04. Et il y a un téléphone qui est le suivant, 06 61 39 11 09. Je répète, 06 61 39 11 09, si vous souhaitez être bénévole de lire et faire livre à l'UDAF, donc pour les enfants de la crèche ou pour des jeunes un peu plus âgés. Voilà. Claudine, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, que vous avez envie de faire passer?
On oublie toujours quelque chose et c'est très important. Voilà, ben, je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis, je dis nous parce que Sandrine Berger est à côté de moi. Oui, ben, rendez-vous, à, peut-être un rendez-vous public d'ailleurs, oui. Il y a le 2 octobre. Le 2 octobre, il y a la fête des familles au parc Louis Jouvet et on prévoit une intervention de lire et faire lire là où il y aura un tapis posé quelque part dans l'herbe avec des bouquins et voilà, une lecture très informelle.
Très bien, merci et à bientôt.
À bientôt,
au revoir.
Merci.